Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro du carnet de région, l'actualité en région Languedoc-Roussillon avec différentes radios associatives qui s'associent pour vous proposer un tour d'horizon de ce qui s'est passé cette semaine et puis également de l'actualité à venir. Pour présenter ce tout nouveau magazine d'actualité en région, c'est avec Romain Bercher. Romain, bonjour.
Bonjour Cédric et bonjour à tous. Les vacances commencent à peine, on parlera déjà de la rentrée avec un nouveau lycée en cœur d'Hérault. L'idée est quasiment actée, reste maintenant à trouver la ville d'accueil, ce sera peut-être Gignac, nous dira RPH. Un carnet de région aux couleurs estivales, c'est l'un des événements musicaux de l'été, la Périchole, l'opéra bouffe d'Offenbach, bientôt présenté sur la scène du Domendo à Montpellier. Radio Viva est allé à la rencontre du célèbre ténor Marc Larcher. Et si vous avez envie de vous évader et de prendre un grand bol d'air frais, loin des chaleurs étouffantes, direction la maison de l'Aigoual. Elle propose une magnifique exposition de photos pendant tout l'été. Radio Escapade nous dira tout. La qualité des eaux s'améliore dans l'Hérault, eau douce ou eau de mer, c'est pareil. L'Agence régionale de santé appelle tout de même à la prudence. Et puis, direction la Lozère, dans ce carnet de région, le festival des Tours du Monde prend une nouvelle tournure cette année. Des concerts sur tout le territoire lozérien. Ce sera un sujet de Radio Intervalle.
C'est le carnet de région. Et tout de suite, nous pensons déjà à la rentrée avec vous, Romain.
Eh oui, les vacances commencent à peine, il faut déjà penser à septembre. Le cœur d'Hérault devrait avoir prochainement un nouveau lycée. C'est en tout cas ce qui semble se dessiner, d'après les dires du conseil régional. Et en tête des villes pressenties pour accueillir ce futur établissement, d'ici 5 ans tout de même, eh bien, c'est la ville de Gignac qui a les bons points. Un projet sur le point de voir le jour est défendu par le maire de la commune depuis plusieurs années.
La semaine dernière a été annoncé l'accord du conseil régional pour la candidature de Gignac concernant la création d'un nouveau lycée en cœur d'Hérault. Un projet important pour la ville porté par son maire, Jean-François Soto. Pour l'appuyer auprès du conseil régional, le député Frédéric Roig et le conseiller départemental du canton de Gignac et président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, Louis Villaret. S'il est mené à bien, ce projet devrait voir le jour courant 2020. La ville a déjà proposé 3 lieux d'implantation possibles. Pour Jean-François Soto, il s'agit d'un projet très important né en 2008. Il est persuadé que Gignac est la meilleure ville d'accueil pour ce nouveau lycée. Quelles en sont les raisons, Jean-François Soto?
Tout d'abord parce que, de par sa position stratégique, on est au carrefour, la porte d'entrée du cœur d'Hérault, hein, très simplement. Gignac est très bien desservi par l'ensemble des éléments à la fois de locomotion, de proximité, de tournée vers à la fois d'équilibre avec les autres communautés de communes avoisinantes, à savoir le Clermontais, le Lot-des-Bois qui ont déjà un lycée, que au niveau des dessertes et de l'équilibre de l'ensemble des communes qui représentent la communauté de communes Vallée de l'Hérault, et donc le cœur d'Hérault, c'est l'endroit qui paraît être le plus adapté.
Le dossier de candidature a été accepté, mais il va devoir à présent passer par de nombreuses étapes. Alors, quelles sont-elles? La réponse du maire de Gignac.
Alors, déjà, la première chose, c'est que la première étape, je dirais, c'est la volonté et de la région et du rectorat de poser les bases d'une réflexion concrète et d'une étude concrète sur ce sujet-là. Ça, c'est une première étape que nous avons réussi et obtenue. Ça, c'est la première des choses. Et après, évidemment, c'est tout un travail de constitution. Moi, je pense que ça va mettre 3-4 ans. Et après, il y aura peut-être, si on y rajoute, si tout va bien, ça sera entre 3 et 4 ans pour que le dossier soit complètement finalisé. Et après, en fonction des budgets, le temps de la construction, on peut dire que entre 3 et 7 ans, il y aura un lycée, quoi.
Le maire de Gignac, Jean-François Soto, au micro de Carla de Dieu de Radio Pays d'Hérault. Les emplois d'avenir en discussion à l'ODEV, la sous-préfète Magali Caumont organisait une rencontre avec les professionnels du domaine viticole et oléicole de l'arrondissement. Thème de cette table ronde, l'emploi des jeunes et les mesures relatives à la mise en œuvre de ces emplois d'avenir. Une rencontre qui avait lieu au domaine d'Archimbault à Saint-Félix-de-l'Odèze. On écoute Magali Caumont, la sous-préfète de l'ODEV, au micro d'Isia Gourmelon de Radio L'ODEV.
35% des entreprises du pays du cœur de l'Hérault sont constituées par des entreprises viticoles. Donc l'idée, c'était de venir présenter à ces employeurs potentiels les contrats aidés qui sont mis en place aujourd'hui par le gouvernement pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi. En coopération avec Pôle emploi, la mission locale jeune, mais également la directe, Cap emploi également, tous les acteurs publics de l'emploi dans l'arrondissement. Cette opération d'information a été organisée dans le cadre du service public de l'emploi de proximité, donc le SPEP, qui est en fait un levier qui nous permet aujourd'hui de mener des actions en coopération avec les différents acteurs de l'État pour promouvoir l'emploi dans l'arrondissement.
Quels sont les types d'emplois ou de contrats possibles pour les employeurs ?
Alors, il y a différents types de contrats et un emploi aidé. C'est vrai que le champ est assez large et que le gouvernement justement a veillé à créer différentes démarches, enfin différentes réponses aux problématiques de l'emploi des jeunes. Donc là aujourd'hui, il s'agira essentiellement des emplois d'avenir, donc emplois qui s'adressent à un public de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes qui sont reconnus travailleurs handicapés et qui sont aujourd'hui éloignés de l'emploi, c'est-à-dire qui ont déjà 6 mois de recherche d'emploi sur les 12 derniers mois et qui aussi présentent des difficultés dans cette recherche de l'emploi, notamment par le fait qu'ils sont installés dans des quartiers prioritaires de la ville ou sur des zones urbaines sensibles.
Les emplois d'avenir, depuis leur création, c'est quelque chose qui fonctionne sur l'arrondissement ?
Alors, les emplois d'avenir, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas beaucoup de recul puisque c'est une démarche qui a été créée il y a à peu près un an. Donc on a encore peu d'éléments pour évaluer leur impact. Mais en tout état de cause, ce qu'on sait, c'est que sur l'année 2014, on a à peu près, je pense, signé une soixantaine de contrats d'emploi à venir, tant dans le secteur marchand que dans le secteur non marchand. Donc c'est un dispositif qui est quand même plutôt bien accueilli par les employeurs et notamment par les employeurs du secteur marchand. Puisque dans le cadre de ce dispositif, donc des emplois d'avenir, ces jeunes font l'objet d'un suivi dans le cadre de la mission locale jeune. Et donc tout au long de leur parcours, donc ils auront régulièrement des entretiens avec la personne qui les suit au niveau de la MLJ. Ce qui nous permet de voir qu'effectivement ça fonctionne plutôt bien puisqu'on a peu de taux d'échec, puisque dans la grande majorité des cas, lorsque ces jeunes signent un CDD dans le cadre des emplois d'avenir, bien souvent les CDD sont transformés en contrats à durée indéterminée.
La viticulture et l'oléiculture peuvent créer beaucoup d'emplois pour les jeunes ?
Alors ce sont des secteurs effectivement qui, on s'est posé la question, hein, puisque bon, c'est un secteur qui est très présent sur l'arrondissement, puisque bon, c'est 30% des entreprises du pays cœur d'Hérault qui sont des entreprises viticoles ou oléicoles. Mais en tout état de cause, on sait qu'elles ne créent pas énormément d'emplois, puisque dans la plupart des cas, effectivement, les emplois sont surtout ceux des gérants. Voilà, mais il n'empêche que sur les travaux saisonniers notamment, mais aussi sur tout le travail de la vigne, on sait qu'il y a un potentiel d'emploi qu'il nous faut exploiter. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le carnet de région qui se poursuit avec ce lundi 6 juillet qui aura lieu la première d'un des événements musicaux de l'été. Ça s'appelle la Périchole, Romain.
Et oui, Cédric, cet opéra bouffe d'Offenbach le célèbre. Il sera présenté dans une toute nouvelle adaptation sur la scène du Domaine d'Eau à Montpellier. Plus de 80 artistes, chanteurs, comédiens, chœurs de l'opéra de Montpellier et orchestre régional Avignon-Provence. Aux manettes de ce spectacle, un directeur musical, Jérôme Pillement, mais aussi deux metteurs en scène, Benjamin Moreau et Olivier Desbordes, un duo pour un spectacle. Alors comment se passe le travail avec ce tandem ? Eh bien la réponse avec le célèbre ténor Marc Larcher qui tient le rôle de Piquillot.
Ce qui est très intéressant dans le fait d'avoir ces deux metteurs en scène, c'est qu'ils nous apportent des visions complémentaires, parfois un peu contradictoires, mais on arrive à les rendre complémentaires et c'est ce qui fait, je dirais, l'intérêt très spécifique de cette production. Alors, tout en ayant cet aspect très intéressant de la complémentarité, il nous laisse quand même beaucoup de place à l'improvisation. On propose souvent, mais ça se fait beaucoup comme ça, on propose énormément de choses et puis eux nous disent ce qu'ils veulent garder, dans quelle direction on doit continuer à improviser ou à fixer les choses. Ben voilà, c'est notre tambouille, j'ai envie de dire. C'est la cuisine du chanteur sur scène.
Et à quelques jours de la première, la pression monte pour le ténor Marc Larcher. Mais il a tout de même une certaine fierté de jouer sur ses terres.
Je suis très content d'être enfin à Montpellier pour chanter cette pièce que j'aime beaucoup. Vu l'accueil qu'on nous a réservé au 21 juin au Domaine d'Eau, je pense que ça se passera bien. Le public montpelliérain est toujours aussi sympathique. J'avais eu l'occasion par quatre fois de l'expérimenter au Zénith avec Mariano. Et je crois que jamais en France on a eu un accueil comme celui qu'on a eu à Montpellier. Je dis pas ça parce que j'habite ici, mais c'est très très bien le public de Montpellier. Donc non, on est content de le proposer au public. J'espère que ça leur plaira. Moi, je suis content de jouer à la maison. Je joue à domicile et c'est comme au foot, on est content quand on est à domicile.
La Périchole, c'est donc à voir les 6, 7 et 8 juillet à l'amphithéâtre du Domaine d'Eau, c'est à Montpellier dans l'Hérault. Toutes les informations sur le site www.domaine-d'eau-34.eu. C'était un sujet complet de Grégory, lui, de Radio Aviva.
Nous poursuivons ce carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon, et nous parlons d'exposition avec vous, Romain.
Et oui, pas de canicule pour le moment en Languedoc-Roussillon, mais on va se mettre au frais dans ce carnet de région. Direction la Maison de l'Égoile au col de la Cesserde. Elle propose tout l'été, des expositions, notamment la Saison des Brumes, une exposition de Manuel Jougla, photographe sévenol qui affectionne tout particulièrement ces paysages de la région en automne, voire en hiver, comme il l'explique à Rémi Goujon pour Radio Escapade.
Ça vient pareil d'un amour pour un paysage, d'une fascination pour un paysage, une ambiance qui est les Cévennes en hiver, à l'automne plus exactement, à automne-hiver, puisqu'il y a la transition entre Hurlevent, Limbo et Saison Blanche, qui se passe en hiver, Saison Blanche. Donc c'est la fascination que j'ai pour ces paysages-là, quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus de touristes, qu'il n'y a plus de randonneurs, qu'il n'y a plus rien. Je monte là-haut, il y a les nuages qui sont très très bas, on ne voit pas grand-chose. Et c'est les formes, c'est la, on va dire, pour utiliser un grand mot, la puissance tellurique de ce paysage-là. Parce que vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui m'a frappé la première fois que j'ai vu ces paysages-là et ces lieux-là. C'est vraiment la force de ces paysages, tout simplement, que j'ai essayé de prendre en photo et de retranscrire avec mes photographies.
Alors, si vous vous rendez à la Maison de l'Égoile, vous constaterez que Manuel Jougla propose un travail assez particulier. Il va le décrire dans un instant au micro de Radio Escapade. Et il va nous expliquer aussi ce qui fait, selon lui, la différence entre un photographe averti et un photographe amateur.
Je dirais que c'est de la photo expressionniste avec déjà la photo noir et blanc. Je ne fais pas de couleur. Et de la photo expressionniste avec des contrastes assez forts, du grain. J'essaye surtout de capter des ambiances, les différentes techniques utilisées, le format utilisé, le cadre. Et je dirais surtout, c'est la patience, en fait. Le fait d'y revenir semaine après semaine, tout le temps. Par exemple, pour Limbo, c'est une série qui fait 12 images. J'y ai travaillé 4 ans dessus. J'ai dû faire près de 300 images à peu près. Et donc, j'en garde 12 sur les 300, voilà, avec après quasiment un mois de travail dans le labo pour faire les tirages avec la technique LIT. Donc, c'est du temps. En fait, il faut beaucoup de temps à la fois au moment de la prise de vue et à la fois quand on fait l'editing, quand on choisit les images, quand on les tire et tout ça.
L'exposition photographique Saison de Brume est donc à voir au col de la Cérède à la Maison de l'Égoile jusqu'à la fin du mois d'août. Et si vous voulez en savoir plus sur ce photographe que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à aller faire un petit clic sur son site internet tombouctoumanu.org.
La qualité des eaux s'améliore dans l'Hérault, Romain.
Oui, entre deux festivals et avant de partir en Lozère, pourquoi pas piquer une tête? La baignade en mer ou en eau douce se font presque les yeux fermés dans tout le département de l'Hérault, mais aussi en région Languedoc-Roussillon. Dans l'Hérault, 6 zones de baignade en mer sont tout de même jugées insuffisantes. C'est le cas dans l'étang de Thau, rien de bien grave, mais l'Agence régionale de santé appelle tout de même à la vigilance.
Sur l'étang de Thau, en fait, on a les résultats des saisons antérieures, puisque maintenant, au niveau de la directive européenne, les classements sont faits sur 4 ans. Donc, l'année dernière et cette année, en début d'année, on avait des bons résultats sur l'étang de Thau. Donc, pour l'instant, pas de contre-indication de se baigner sur l'étang de Thau. Voilà la situation.
Et les endroits où vous dites que la baignade, l'eau est de qualité insuffisante, mais on peut quand même se baigner, ça veut dire quoi concrètement ?
Ben, ça veut dire que c'est comme un logo de qualité globale sur les 4 dernières années qui vous indique globalement la qualité de l'eau. Donc c'est une information aux usagers de la qualité globale de l'eau. Maintenant, vous avez aussi les résultats instantanés qui vous informent aussi de l'actualisation de ces informations sur la qualité de l'eau.
Mais donc, si l'eau est de qualité insuffisante, je peux quand même me baigner.
Vous pouvez vous baigner, mais l'année prochaine, il va y avoir un bilan au niveau européen. Et si les collectivités ne font pas des actions d'amélioration de la qualité de l'eau, s'ils ne font pas des travaux, à terme, les baignades seront interdites. Donc les collectivités doivent prouver qu'ils ont fait des travaux d'amélioration de la qualité de manière à ce que ces baignades deviennent pérennes. Mais si ces travaux ne sont pas entrepris, à terme, les baignades seront fermées.
Et pendant combien de temps, définitivement, jusqu'à ce que ça s'améliore ou...
Tout à fait. Il faudra, à ce moment-là, apporter les éléments et ressortir de ce niveau insuffisant et prouver à l'Union européenne qu'on peut à nouveau aller se baigner dans ces lieux.
On peut donc se baigner les yeux fermés partout en Languedoc-Roussillon. Prudence tout de même. C'était les explications de Jeanne Claudet de l'Agence régionale de santé. La qualité des eaux de baignade en région Languedoc-Roussillon est donc disponible en temps réel sur le site internet baignade.santé.gouv.fr.
Allez, pour conclure ce dernier carnet de région de la saison, place au Festival des Tours du Monde.
Le Festival de Lozère qui prend une nouvelle tournure cette année avec sa transhumance et ses concerts délocalisés sur tout le territoire lozérien. Pour les puristes, pas d'inquiétude, passe par le cœur du festival. Il a toujours lieu à Chanac les 16, 17 et 18 juillet. Tour d'horizon de ce festival avec Florian Oliveres.
Le festival cette année s'est développé de cette manière-là, de travailler sur une transhumance qui démarre en fait dans les gorges du Tarn, qui va jusque dans la vallée du Lot et jusque dans l'Aubrac. On travaille à ce que le festival des Tours du Monde soit éclaté sur le territoire de la Lozère pour pouvoir aller au plus proche des gens et pour pouvoir justement développer cette musique du monde, cette musique venue d'ailleurs, cette musique venue de plein de pays différents, pouvoir rencontrer ces gens-là, pouvoir avoir la chance de proposer dans l'église de Nasbinal des artistes comme Leila Makala, des artistes venant d'Haïti, venant de la Nouvelle-Calédonie. On a aussi des artistes venus du Japon, notamment Kakushi Nishihara, qui viendra spécialement du Japon pour le festival et qui sera programmé dans l'église d'Aumont-Aubrac et à la fois sur le festival à Chanac. On accueillera d'abord Mohamed Abouzekri, un jeune artiste égyptien, joueur de oud. Mohamed Abouzekri est un très très grand musicien, très jeune. Il a 23 ans et il arrive à être nommé meilleur joueur de oud du monde arabe. Donc c'est quand même un phénomène. Et on accueille ce phénomène-là dans le cadre des 30 ans du Festival de Radio France, dans trois endroits différents, le 12 juillet, c'est-à-dire il sera proposé à La Malène d'abord, puis ensuite à Saint-Enimie, et on finira cette journée du 12 juillet à la ferme des Boissés. Donc voilà, cet artiste-là, vraiment, je vous incite à venir voir ce jeune prodige. Ensuite, forcément, il y aura Chanac, comme tous les ans, le 16, 17 et 18 juillet. Tous les ans, on retrouvera des artistes venus du monde entier à Chanac. Donc forcément, c'est le cœur du festival aujourd'hui. C'est là où rayonne justement le festival pendant trois jours. On accueillera la création Kintsugi avec Serge Tessoguet, Gaspard Claus et Kakushi Nishihara venus du Japon. On accueillera aussi Bachar Markhalifeh, un grand artiste libanais, fils de Marcel Markhalifeh, voilà, d'une grande famille de musiciens libanais. On accueillera les Massilia Sound System aussi pour les 30 ans, leurs 30 ans, la fête des 30 ans, les 30 ans de lutte, 30 ans de discours, 30 ans de combat et de combat sur les classes sociales moyennes. On accueillera aussi Fatoumata Diawara et Roberto Fonseca, une rencontre de deux artistes, une malienne, Roberto Fonseca, un grand pianiste de jazz cubain, qui seront spécialement à Chanac pour présenter cette rencontre.
Florian Oliveres, le directeur artistique du Festival des Tours du Monde, au micro de Gaëtan Hugon de Radio Intervalle.
C'est ainsi que s'achève pour cette semaine le carnet de région, et puis c'était le dernier carnet de région de cette saison. Ce carnet de région, ce dernier carnet de région qui vous a été présenté par Romain Bercher, ça sent les vacances tout ça. Romain Bercher, merci.
Merci.
Qu'est-ce que
Cédric.
L'on peut vous souhaiter pour ces vacances d'ailleurs ?
Du boulot, et puis je crois encore un peu de boulot.
Oui, on n'arrête pas de travailler. Merci à toutes les radios qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de chaque magazine tout au long de cette saison. Merci aux radios également qui se sont succédées tout au long de la saison. saison pour vous proposer justement de découvrir l'actualité de la semaine en région Languedoc-Roussillon. Comme je sais que vous êtes amateur de citations, Romain, on va vous laisser avec cette citation d'une journaliste américaine, de Anne Landers. On n'a jamais autant besoin de vacances que lorsqu'on en revient. C'était le carnet de région.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.